Chapitre 10. Trêve. La pluie d'automne crépitait sur les fenêtres de la chambre. Ronica resta un moment allongée, immobile, à l'écouter. Le feu avait baissé durant la nuit. Le froid dans la pièce contrastait presque agréablement avec la chaleur des couvertures. Elle n'avait pas envie de se lever, pas encore. Étendue dans un lit douillet entre des draps propres sous une chaude courte pointe, elle pouvait faire semblant. Elle pouvait revenir au temps passé, imaginer que la vivacia allait accoster d'un jour à l'autre. Elle irait à la rencontre d'Ephron qui parcourait le quai à grandes enjambées. Ses yeux sombres s'élargiraient en l'apercevant. La force de sa première étreinte l'avait toujours surprise. Son capitaine la soulèverait dans ses bras, la serrerait comme s'il ne voulait jamais plus la lâcher. Jamais plus. Le désespoir la submergea. Par un effort de volonté, elle laissa passer la vague. Elle avait surmonté ce chagrin. De temps à autre, elle tombait encore dans sa douloureuse embuscade, mais elle se rappelait à l'ordre en se répétant qu'elle l'avait surmonté. Néanmoins, elle se trouva définitivement réveillée. Il était très tôt, une aube trouble effleurait à peine ses fenêtres. Qu'est-ce qui l'avait réveillée? Elle avait le vague souvenir d'un claquement de sabots dans l'allée, le bruit d'une porte qu'on ouvre. Un messager était-il arrivé? C'était la seule raison d'être de ces bruits si matinaux. Elle se leva, s'habilla en hâte sans déranger Rack, se coula dans les corridors obscurs de la maison silencieuse et descendit l'escalier à pas furtifs. Elle se surprit à sourire lugubrement. Malta aurait été fière d'elle. Elle avait appris que le nez des mâches risquait moins de craquer. Elle savait maintenant comment rester parfaitement immobile dans l'obscurité sans se faire remarquer. Parfois, elle s'asseyait dans le cabinet de travail en feignant de somnoler pour encourager les serviteurs à bavarder. Elle s'était trouvé un coin agréable sous la fenêtre où elle pouvait faire semblant d'être absorbée par son ouvrage d'aiguille jusqu'à ce que le mauvais temps eût mis un terme à sa ruse. Elle parvint au rez-de-chaussée et se faufila discrètement dans le vestibule jusqu'au cabinet de travail de Davad. La porte était fermée, mais le loquet n'était pas poussé. En s'approchant, elle colla l'oreille dans l'interstice. Elle distingua une voix masculine. Rode Kern? Assurément, la compagne et lui se fréquentaient beaucoup ces derniers temps. Il ne se passait pratiquement pas de jour qu'il ne s'enferme avec elle. D'abord, Onika avait expliqué cette proximité par l'implication de Kern dans la mort de Davad. Pourtant, tout le monde semblait considérer l'affaire réglée désormais. Qu'est-ce qui l'amenait à la porte de Série à une heure pareille avec une telle précipitation? L'enquête sur la mort de Davad était terminée. Au nom du gouverneur, Séry avait conclu à un accident dont personne n'était responsable. Le gouvernorat, selon elle, avait décidé que les preuves n'étaient pas suffisantes pour accuser Davad de trahison envers Jamelia. En conséquence, sa nièce hériterait de la propriété, mais la compagne Séry continuerait à l'occuper. La nièce serait bien sûr dédommagée comme il convient de son hospitalité au moment opportun, après que les troubles seraient apaisés. Séry avait soigneusement mis en scène la prononciation de son arrêt. Elle avait convoqué les chefs du conseil dans le cabinet de travail, les avait gorgés de mets délicats et du vin de la cave de Davad, puis elle leur avait lu ses conclusions écrites sur un parchemin. Ronica assistait à la séance, ainsi que la nièce de Restart, une jeune femme discrète, flegmatique, qui avait écouté sans faire de commentaires. À la fin, elle avait déclaré au conseil qu'elle était satisfaite. Elle avait lancé un regard à Rod Kern en parlant. Elle n'avait guère de raison de chérir son oncle, mais Ronica en était toujours à se demander si son accord n'avait pas été acheté ou extorqué par Rod. Le conseil avait alors conclu que, l'héritière étant satisfaite, on s'en tiendrait là. Tout le monde, à l'exception de Ronica, paraissait oublier que la réputation entachée de la famille Vestrit n'était pas lavée. Personne n'avait sourcillé à l'énoncé du fait que la prétendue trahison de Davad était envers Jamelia et non envers Terrilville. D'où il résultait que Ronica se sentait singulièrement isolée, comme si les règles avaient subtilement biaisé pour la dépasser. Après que le conseil avait accepté les conclusions de la compagne, elle s'était attendue que Seri la mît à la porte. Mais celle-ci l'avait encouragée en termes pressants à rester. Elle s'était montrée gracieuse et condescendante à l'excès, prétextant que la marchande pourrait l'aider à ramener la paix à Terrilville. Ronica doutait de sa sincérité. La véritable raison de l'hospitalité de Seri, elle espérait bien la découvrir. Jusque-là, le mystère lui avait échappé. Elle retint son souffle et s'appliqua à saisir le moindre mot. C'était la compagne qui parlait à présent.
Enfui ? Le message dit bien « enfui ».
Rhode répondit sur un ton rogue.
« C'est superflu. Un message envoyé par oiseau est forcément limité. Il a disparu, la compagne Keki a disparu et cette fille avec eux. Avec un peu de chance, ils se sont noyés dans le fleuve. Mais n'oubliez pas que la fille a été élevée à Terrilville, qu'elle vient d'une famille de marins. Il est probable qu'elle sait y faire avec un bateau. »
Il marqua une pause.
« Le fait qu'on les ait vus pour la dernière fois dans un canot, c'est la preuve criante qu'il s'agit d'une conspiration. Cela ne vous paraît pas un peu étrange, tout ça ? La fille qui pénètre dans la cité ensevelie, qui les fait sortir au beau milieu du pire tremblement de terre que Troinous ait connu depuis longtemps ? Personne ne les voit partir, jusqu'à ce qu'on les aperçoive du dragon dans un petit canot. »
« Qu'est-ce que ça veut dire, du dragon ?»
l'interrompit Seri.
Je n'en ai pas la moindre idée, »
répondit Rhode avec impatience.
« Je ne suis jamais allé à Troinous. J'imagine qu'il s'agit d'une tour ou d'un pont. Qu'importe. Le gouverneur a échappé à notre surveillance. Tout peut arriver. »
« J'aimerais lire cette partie du message. »
La voix de la compagne paraissait très hésitante. Ronica fronça les sourcils. Les messages parvenaient donc à Rhode avant de l'atteindre, elle ?
Impossible. Je l'ai détruit après l'avoir lu. Inutile de risquer que cette information arrive aux oreilles de Terrilville plus tôt qu'il n'est nécessaire. Soyez assurés qu'elle ne restera pas longtemps notre secret. De nombreux marchands entretiennent des rapports étroits avec leurs parents du désert des pluies. D'autres oiseaux vont apporter ces nouvelles. C'est pourquoi nous devons agir promptement et avec détermination avant que les autres réclament à corps et à cri de participer à nos décisions.
Mais je ne comprends pas. Comment en est-on arrivé là ?
La compagne semblait affolée.
Ils avaient promis de le garder en sécurité là-bas. Quand il est parti, je l'avais convaincu que c'était le meilleur moyen de le protéger. Qu'est-ce qui a pu le faire changer d'avis ? Pourquoi s'enfuir ? Qu'est-ce qu'il veut ?
Ronica entendit l'éclat de rire de Rhode.
Le gouverneur est peut-être jeune, mais il n'est pas idiot. On commet souvent la même erreur avec moi. Ce ne sont pas les années qui comptent. C'est le pouvoir dont il hérite qui fait l'homme d'autorité. Le gouverneur est né pour commander, compagne. Je sais que vous prétendez qu'il n'entend rien aux fluctuations de la politique, mais il n'est sûrement pas aveugle au point de n'avoir pas décelé votre soif de domination. Peut-être craint-il justement ce que vous êtes en train de faire, lui reprendre le pouvoir, parler en son nom, décider à sa place, ici, à Terrilville. D'après ce que j'ai vu, d'après ce que vous avez dit vous-même, vos paroles ne correspondent pas à celles que j'attendrais du gouverneur. Cessons là les faux-semblants. Vous savez qu'il a abusé de son autorité sur vous. Je sais ce que vous espérez. Vous voudriez vous emparer du pouvoir et nous gouverner mieux qu'il ne l'a fait. »
Ronica entendit le martèlement des bottes sur le sol. Il devait arpenter la pièce. Elle se recula légèrement. La compagne gardait le silence. La voix de Rhode avait perdu son charme quand il reprit.
« Soyez francs. Nous avons, vous et moi, des intérêts communs. Nous cherchons tous deux à voir Terrilville se rétablir. Tout autour de nous, les gens jacassent à qui mieux sur l'indépendance de Terrilville, sur le partage du pouvoir avec les nouveaux marchands. Mais ces idées sont irréalisables l'une comme l'autre. Nous avons besoin de conserver des liens avec Jamelia si nous voulons que notre commerce prospère. Pour la même raison, il faut expulser les nouveaux marchands de Terrilville. Pour moi, vous représentez l'idéal. Si vous restez ici, que vous parlez avec la voix du gouverneur, vous pouvez nous assurer le succès. Mais si le gouverneur périt, avec lui disparaît le fondement de votre autorité. Pire, s'il revient de son propre chef, sa voix couvrira la vôtre. Mon plan est simple à formuler, sinon à exécuter. Nous devons remettre la main sur le gouverneur. Cela fait, nous le forcerons à vous céder le pouvoir sur Terrilville. Vous pourrez réduire nos taxes, chasser les Chalcédiens de notre port et confisquer les biens des nouveaux marchands. Nous avons l'argument essentiel pour négocier. Nous échangeons sa vie contre ses concessions. Une fois qu'il les aura couchées par écrit, nous le garderons ici avec les honneurs qui lui sont dus. Et si la flotte jamélienne annoncée arrive, nous aurons toujours notre atout. Nous leur sortirons le gouverneur pour démontrer qu'il n'y a pas lieu de se venger. Enfin, nous le renverrons à Jamélia sain et sauf. Cela se tient, n'est-ce pas ?
Excepté sur deux points, fit remarquer Séri à mi-voix. Nous ne tenons pas le gouverneur, et...
Ici le ton devint plus subtil. Je ne vois pas bien l'avantage que vous tireriez de tout cela. Vous êtes peut-être un patriote, Rothkern, mais je ne crois pas que vous soyez parfaitement désintéressé.
C'est pourquoi nous devons aviser rapidement pour retrouver le gouverneur et le reprendre en main. Ça tombe sous le sens. Quant à moi, mes ambitions et ma situation sont à peu près les mêmes que les vôtres. Mon père est un homme robuste, d'une lignée d'une grande longévité. Il se passera des années, des décennies peut-être, avant que je devienne le marchand de la famille Cairn. Je n'ai aucune envie d'attendre si longtemps pour exercer pouvoir et influence. Pire, si je m'y résignais, je crains fort que d'ici là, Terrilville ne soit plus que l'ombre d'elle-même. Pour assurer mon avenir, je dois m'établir une position de force, exactement comme vous aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi nous n'unirions pas nos efforts.
Les talons de Cairn claquèrent sèchement sur le sol. Ronica supposa qu'il était revenu près de la compagne.
Vous êtes manifestement peu habitué à être seul. Vous avez besoin d'un protecteur ici. Nous nous marions. En échange de ma protection, de mon nom et de mon foyer, vous partagez le pouvoir avec moi. Quoi de plus simple ?
La voix de la compagne était basse et incrédule.
Vous êtes bien présomptueux, fils de marchand.
Rhode éclata de rire.
« Vraiment ? Je doute que vous trouviez un parti plus avantageux. Selon les critères de Terrilville, vous êtes presque une vieille fille. Voyez plus loin, Séri. Projetez-vous dans l'avenir, plus d'une semaine ou d'un mois. Les troubles vont finir par s'apaiser. Alors, que deviendrez-vous ? Vous ne pouvez plus retourner à Jamélia. » Il faudrait être aveugle et sourd pour croire que vous chérissez votre rôle de compagne du gouverneur Kosgo. Alors, que ferez-vous ? Restez ici pour vivre isolé parmi des gens qui ne vous accepteront jamais tout à fait ? Vous finirez par vieillir seul et sans enfant. La maison du marchand Restart et son cellier ne seront pas éternellement à votre disposition. Où vivrez-vous et comment ?
Comme vous l'avez suggéré, je serai la voix du gouverneur ici, à Terrilville. J'userai de mon autorité pour me créer mes propres moyens de subsistance.
Ronica faillit sourire en entendant la compagne se dresser contre Cairn.
Je vois.
Il ne dissimulait pas son amusement.
Vous imaginez que vous vivrez indépendante à Terrilville.
Et pourquoi pas? Je vois d'autres femmes qui s'occupent de leurs propres affaires et agissent de leur propre chef. Prenez Ronica Vestrit, par exemple.
Ouais, prenons Ronica Vestrit, justement,
interrompit la voix impatiente de Rhode.
Nous ne devrions pas perdre de vue nos affaires présentes. Vous ne tarderez pas à vous apercevoir que je vous ai fait une généreuse proposition. Jusque-là, il faut nous concentrer sur le gouverneur. Nous avons déjà eu quelques raisons de soupçonner les Vestrit, souvenez-vous. Restart a fait des pieds et des mains pour mettre Malta Vestrit sous le nez du gouverneur durant le bal. Si elle a escamoté Kosgo, cela fait partie de la conspiration.
Peut-être vont-ils le ramener à Terrilville pour qu'il se range aux côtés des nouveaux marchands. Peut-être s'est-il enfui pour gagner la mer et attirer sur nous ses alliés chalcédiens avec leur feu et leurs machines de guerre. »
Le silence tomba. Ronica entr'ouvrit les lèvres et respira profondément. « Malta ? Qu'est-ce que c'était que cette histoire avec le gouverneur ? Incompréhensible, impossible. Malta ne pouvait être mêlée à tout ça. » Pourtant, elle eut l'oppressante certitude qu'il en était ainsi.
« Mais nous disposons encore d'une arme. »
La voix de Rhodes interrompit les spéculations de Ronica.
« Si c'est une conspiration, nous avons un otage. »
Et les paroles qui suivirent confirmèrent les pires craintes de la marchande.
« Nous tenons la grand-mère. Elle pourrait le payer de sa vie si la fille ne coopère pas avec nous. Même si elle se moque de sa famille, il y a sa fortune. Nous pouvons confisquer sa maison, menacer de la détruire. Elle a des amis parmi les marchands de Terrilville. Elle ne sera pas inaccessible à la persuasion. »
Un silence tomba. Quand la compagne reprit la parole, sa voix était indignée.
« Comment pouvez-vous envisager une chose pareille? Que feriez-vous? Vous emparer d'elle ici, sous mon propre toit ?»«
Les temps sont durs, »
repartit Rhodes avec conviction.
« Ce n'est pas par la douceur qu'on reconstruira Terrilville. Nous devons être prêts à user de violence pour l'amour de notre patrie. Je ne suis pas le seul à penser ainsi. Les fils de marchands ont souvent la vue moins courte que leur père. À la fin, quand le peuple légitime de Terrilville gouvernera à nouveau, tous reconnaîtront que nous avons bien agi. Nos aînés du conseil commencent à comprendre qu'ils doivent compter avec notre force. Et ceux qui s'opposent à nous ne s'en porte pas très bien. Mais laissons cela. »
Le peuple légitime ?
Ronica n'eut pas le loisir d'apprendre ce que Rhodes entendait par « peuple légitime ». Une porte qui grinça dans la maison l'avertit juste à temps. On venait. Leste comme une enfant, elle s'écarta de la porte d'un bond, fila dans le vestibule, disparut comme une flèche dans un petit salon. Elle resta là, dans la pièce obscure, au volet clos, le cœur battant à tout rompre, assourdi par les pulsations de son sang affolé. Puis, son pouls s'apaisa, son souffle devint plus régulier, et d'autres bruits lui parvinrent, les légers bruits d'une maison qui s'éveille. L'oreille collée à la porte, elle entendit une servante apporter le petit déjeuner dans le cabinet de travail. Elle attendit, avec une impatience fébrile, que la domestique ait disposé. Elle lui laissa le temps de retourner à la cuisine, puis elle se précipita hors de sa cachette pour regagner sa chambre. Rhac ouvrit des yeux brouillés de sommeil quand Ronica referma doucement la porte derrière elle.
« Réveille-toi, » dit-elle doucement. « Nous devons faire nos paquets et nous enfuir immédiatement. »
Lorsque la servante entra avec le café et les petits pains, Céry accueillit l'interruption avec une pitoyable gratitude. Rhodes lança un regard furibond à l'importune, mais il se tut. Seul le silence permettait à la compagne de s'entendre vraiment penser. Quand Rhodes était dans la pièce, qu'il la dominait de toute sa taille, qu'il parlait avec tant de véhémence, elle se surprenait à opiner du bonnet. Ce n'était que plus tard qu'elle était capable de se rappeler ce qu'elle avait dit et ce qu'elle avait honte d'avoir approuvé. Il l'effrayait. Quand il avait exposé les espoirs qu'elle nourrissait en secret de s'emparer du pouvoir du gouverneur, elle avait manqué s'évanouir. Et lorsqu'il avait calmement présumé qu'il pourrait l'épouser, qu'il avait esquivé avec amusement ses protestations, elle s'était sentie suffoquée. Encore maintenant, ses mains étaient moites, tremblantes sur ses genoux. Elle grelottait de peur depuis que sa servante l'avait réveillée pour lui dire que Rhodes était en bas et demandait à la voir immédiatement. Elle s'était habillée en toute hâte, en rabrouant la domestique qui voulait l'aider. Elle n'avait pas eu le temps de se coiffer convenablement. Elle s'était brossé les cheveux à la diable, les avait torsadés et épinglés sur sa tête. Elle s'était sentie aussi négligée qu'une fille de peine. Pourtant, une petite étincelle de fierté brillait en elle. Elle lui avait résisté.
Si l'ombre qu'elle avait entrevue dans l'entrebâillement de la porte avait été Ronica, elle l'avait avertie. Elle avait soupçonné une présence derrière la porte juste au moment où il avait fait son outrageante demande en mariage. Elle ne savait pourquoi, mais l'idée que Ronica, marchande de Terrilville, puisse surprendre cette proposition impudente l'avait humiliée et lui avait donné le sang-froid des conduire au Cairn. La honte s'était transformée en courage factice. En prévenant Ronica, elle avait défié Rhodes et ce, à son insu. Elle était assise toute raide au bureau de Davad tandis que la servante disposait le café et les petits pains. L'arôme du café et la bonne odeur de pain frais auraient dû la mettre en appétit. Mais avec Rhodes présent, bouillant d'impatience, elle en eut le cœur soulevé. Allait-il deviner ce qu'elle avait fait? Pire, le regretterait-elle plus tard? Depuis qu'elle avait fait sa connaissance, elle en était venue à respecter Ronica Vestrit. Même si la marchande trahissait Jamelia, Ceri ne voulait prendre aucune part à sa capture ni à sa torture. Elle était assaillie par le souvenir de ses propres expériences. Rhodes avait parlé de « persuader Ronica » avec la même désinvolture dont le gouverneur avait usé quand il avait livré la compagne au capitaine Chalcédien. Dès que la servante eut quitté la pièce, Rhodes s'approcha du bureau à grands pas et commença à se servir.
« Il n'y a pas de temps à perdre, compagne. Nous devons être prêts quand le gouverneur arrivera avec les Chalcédiens tenus en laisse. »
Ce serait plutôt le contraire, songea-t-elle, mais elle fut incapable de formuler les mots. Pourquoi? Ah, pourquoi son bref courage l'avait-il fui? Elle ne pouvait même pas penser rationnellement quand il était dans la pièce. Elle ne croyait pas ce qu'il disait. Elle se savait plus avertie que lui dans le domaine politique, plus à même d'analyser la situation, mais pour une certaine raison, elle ne pouvait agir d'après ses propres réflexions. Tant qu'il était là, elle se sentait prisonnière de son monde à lui, de ses pensées à lui, de sa réalité.
Il prit une mine renfrognée. Elle n'avait pas écouté. Il avait dit quelque chose et elle n'avait pas réagi.
Qu'avait-il dit? Elle chercha frénétiquement dans sa tête, mais ne trouva pas. Elle se borna à le considérer avec un effroi croissant.
« Eh bien, si vous ne voulez pas de café, dois-je appeler la servante pour qu'elle vous apporte du thé ?»
Elle retrouva l'usage de sa langue. « Non, je vous en prie, ne vous donnez pas cette peine. Le café, c'est parfait, vraiment. » Avant qu'elle ait eu le temps de bouger, il la servait. Elle le regarda ajouter crème et miel, beaucoup trop à son goût, mais elle ne dit mot. Il posa une brioche sur une assiette et lui apporta le tout.
« Compagne, vous vous sentez bien? Vous êtes toute pâle, » dit-il de but en blanc.
Les muscles saillaient sur ses avant-bras bronzés, ses phalanges pointaient en arêtes dures. Elle leva sa tasse précipitamment, but un peu de café. Quand elle l'eut reposé, elle s'efforça d'affermir sa voix et répondit avec raideur
« Je vais bien, je vous en prie, continuez. »
Les propositions de paix de Minxley sont pure comédie, manœuvre dilatoire. Les nouveaux marchands cherchent à nous occuper pendant qu'ils rassemblent leurs forces. Et ils sont au courant de l'évasion du gouverneur, et probablement, ils ont plus de précision que nous. Et je suis certain que les Vestrites sont impliqués depuis le début. Songez à la façon dont cette vieille femme a essayé de nous discréditer à la réunion du Conseil. C'était pour détourner l'attention qu'on porte à sa propre trahison.
« Minxley ?» commença Ceri.
« On ne peut pas se fier à lui.
Mais on va l'utiliser. »
On va le laisser faire ses propositions de trêve. On va même avoir l'air d'être impatient de le rencontrer. Alors, quand on l'aura entraîné assez loin, on le supprimera. » Et il fit un grand geste de la main.
Ceri rassembla tout son courage.
« Il y a une contradiction. Ronica Vestrit m'a conseillé de me méfier de Minxley. Assurément, si elle était de mèche avec lui...
Elle ferait tout son possible pour ne pas avoir l'air, »
conclut Rhodes d'un ton péremptoire. Ses yeux sombres étincelaient de colère. Ceri respira et raidit l'échine.
Ronica m'a exhorté à maintes reprises à établir une paix où toutes les factions de Terrilville auraient leur mot à dire. pas seulement les premiers et les nouveaux marchands, mais les esclaves, les gens de trois navires et les autres immigrants. Elle insiste pour que nous fassions tous une trêve en vue de conclure une paix équitable.
« Alors elle se condamne elle-même, »
déclara-t-il catégorique.
« Un tel discours est une trahison envers Terrylville, les marchands et Jamelia. Nous aurions tous dû savoir que les Vestrites étaient corrompus quand ils ont permis que leur fille épouse un étranger et un Chalcédien par-dessus le marché. C'est bien de là que remonte la conspiration. Des années et des années de complots et de profits aux dépens de Terrylville. Le vieux n'a jamais fait commerce sur les fleuves des pluies. Vous le saviez? Quel marchand jouissant de son bon sens, propriétaire d'une vive nef, laisserait passer une occasion pareille? Pourtant, il gagnait quand même de l'argent d'une façon ou d'une autre. Où? Grâce à qui? Ils ont accueilli au sein de leur famille un sang-mêlé chalcédien. Ça m'a tout l'air d'un indice qui donne à penser que depuis le début, les Vestrites ont renié tout loyalisme envers Terrylville, non?
Il accumulait ses arguments trop rapidement. Elle se sentit assommée par sa logique. Elle se surprit à opiner et se contint avec effort. Elle parvint à répondre.
« Mais pour faire la paix à Terrylville, on doit bien aboutir à un accord entre tous les gens qui y vivent, obligatoirement. »
Elle fut étonnée qu'il approuve d'un hochement de tête.
« Exactement, vous avez raison. Mais dites plutôt entre les gens qui devraient vivre ici. » Les premiers marchands. Les immigrants de trois navires qui ont conclu un pacte avec nous quand ils sont arrivés. Et ceux qui se sont installés depuis, un par un ou en famille, pour adopter nos coutumes et vivre conformément à nos lois, tout en reconnaissant qu'ils ne pourront jamais devenir marchands. Ce mélange, nous pouvons l'accepter. Si nous expulsons les nouveaux marchands et leurs esclaves, notre activité sera réorganisée. Que les marchands de Terrylville reprennent les terres qui ont été illégalement octroyées aux nouveaux à titre de dédommagement par le gouverneur qui nous a manqué de parole. Alors, tout ira bien à nouveau dans notre ville. »
C'était d'une logique enfantine, trop simpliste pour être réaliste. Revenons en arrière, comme c'était avant, voilà ce qu'il proposait. Il n'arrivait donc pas à comprendre que l'histoire n'est pas une tasse de thé qu'on reverse dans la théière? Elle fit encore une tentative, insufflant à sa voix une force qu'elle ne possédait pas. « Cela ne me paraît pas juste. Les esclaves n'ont pas eu leur mot à dire quand on les a amenés là. Peut-être... »«
C'est juste. Et ils n'auront pas non plus leur mot à dire quand on les renverra de Terrylville. Cela s'équilibre. Qu'ils s'en aillent et que ceux qui les ont amenés ici s'en débrouillent. Sans quoi ils vont continuer à courir les rues, à piller, à saccager, à voler les honnêtes gens. »
Une petite étincelle de son esprit d'autrefois s'alluma en ses rires. Elle demanda sans réfléchir.
« Mais comment comptez-vous vous y prendre? Leur dire tout simplement de s'en aller? Je doute qu'ils obéissent. »
L'espace d'un instant, Kern parut interloqué. Une ombre de doute passa dans ses yeux, puis il eut une moue de dédain.
« Je ne suis pas idiot, » cracha-t-il. « Il y aura effusion de sang, je le sais. » Il y a des marchands et fils de marchands qui sont de mon côté. Nous en avons discuté. Nous acceptons tous d'en passer par là avant que ce soit fini. C'est le prix que nos ancêtres ont payé. Maintenant, c'est à notre tour et nous paierons s'il le faut. Mais nous n'avons pas l'intention de verser notre sang. Oh non !»
Il reprit haleine et fit rapidement le tour de la pièce.
« Voici ce que vous devez faire. Nous allons convoquer une réunion extraordinaire des marchands. Non !» Pas de tous, seulement des chefs du conseil. Vous leur annoncerez les fâcheuses nouvelles. Que le gouverneur a disparu lors du tremblement de terre de Troisnous et que nous craignons qu'il ne soit mort. Vous avez donc décidé d'agir de votre propre chef, de réprimer les troubles à Terrylville. Vous leur direz qu'il faut conclure un traité de paix avec les nouveaux marchands, mais en spécifiant qu'il doit être ratifié par toutes les familles de nouveaux marchands. Nous préviendrons Minxley que nous sommes prêts à discuter, mais que chaque famille doit déléguer un représentant aux négociations. Et il doit venir dans un esprit de trêve, sans armes, sans serviteurs ni gardes d'aucune sorte, à la salle du conseil. Une fois qu'on les tient, on peut refermer le piège. On leur dira qu'ils doivent quitter pacifiquement nos rivages, que leurs biens sont confisqués, faute de quoi les otages paieront. Laissons-leur le soin d'arranger l'affaire,
Mais on leur fera savoir que les otages seront libérés et embarqués seulement quand tous les autres seront à une journée de voile du port. Alors,
vous êtes vraiment prêt à exécuter tous les otages s'ils refusent ?
Demanda Seri d'une voix blanche.
On n'en arrivera pas là,
affirma-t-il aussitôt.
Mais le cas échéant, ce sera la faute de leurs compatriotes, pas la nôtre. S'ils nous y forcent, mais vous savez qu'ils ne le feront pas.
Il parlait trop vite. Cherchait-il à la rassurer ou à se rassurer lui-même? Elle tâcha de puiser en elle le courage de lui dire à quel point il était insensé. C'était un gamin grandi trop vite, qui, emporté par sa violence, déraisonnait. Elle avait été sotte de s'appuyer sur lui. Elle avait découvert trop tard que son instrument avait des bords tranchants. Elle devait se débarrasser de lui avant qu'il ne nuise davantage. Mais elle en était incapable. Il se tenait devant elle, les narines dilatées, les poings crispés le long du corps, et elle sentait la colère bouillir sous le masque de calme, la colère qui alimentait sa haine prétendument juste. Si elle le contredisait, il retournerait peut-être cette colère contre elle. Elle ne songeait qu'à une chose, fuir. Elle se leva lentement, affectant le calme.
« Merci de m'avoir apporté ces nouvelles, Rhodes. Maintenant, il faut que je prenne le temps de réfléchir seule. »
Elle s'inclina avec gravité, espérant qu'il s'inclinerait à son tour et qu'il s'en irait. Mais il secoua la tête.
« Vous n'avez pas le temps de délibérer, compagne. Les circonstances nous obligent à agir sans délai. Rédigez les convocations des chefs du conseil. Ensuite, vous les ferez porter par une servante. Je vais de ce pas arrêter la femme Vestrite et la maîtresse sous bonne garde. Dites-moi où se trouve sa chambre. »
Il fronça les sourcils.
Où vous aurait-elle rallié à sa cause? Vous croyez que vous gagnerez plus à vous allier avec les conspirateurs?
Bien sûr. Si elle lui opposait la moindre résistance, il la rangerait au nombre de ses ennemis. Alors il se montrerait aussi brutal avec elle qu'il se préparait à l'être avec Ronica. La marchande lui avait fait peur quand elle s'était dressée contre lui. Tout à l'heure, Ronica était-elle dans le vestibule? Avait-elle entendu l'avertissement? Avait-elle compris? Avait-elle eu le temps de s'enfuir? Seri avait-elle fait quoi que ce fût pour la sauver, ou était-elle en train de sacrifier cette femme à son propre salut?
Rhode crispait et décrispait les poings nerveusement. Elle n'imaginait que trop nettement avec quelle violence il refermerait sa main sur le poignet frêle de Ronica Vestrite.
Pourtant, elle ne pouvait l'en empêcher. Il ne ferait que la blesser, elle, si elle essayait. Il était trop grand, trop fort, trop redoutablement mal. Elle était incapable de penser en sa présence. Et puis cette besogne l'éloignerait temporairement. Ce ne serait pas sa faute à elle, pas plus que la mort de Davad Restart n'était sa faute. Elle avait fait ce qu'elle avait pu, n'est-ce pas? Mais si l'ombre à la porte n'avait été qu'une ombre, si la vieille dame dormait encore? Ce fut une étrangère qui, la bouche sèche, prononça les mots terribles. « En haut de l'escalier. Quatrième porte à la gauche. La chambre de Davad. »
Rhode quitta la pièce à grandes enjambées en faisant délibérément claquer ses bottes.
Seri le suivit des yeux. Quand il fut hors de vue, elle ploya le dos, la tête dans les mains. « Ce n'est pas ma faute, » répétait-elle pour tâcher de se rasséréner. « Personne n'aurait pu sortir indemne de ce qu'elle avait vécu. Ce n'était pas sa faute. » Comme un fantôme improbateur, Ronica se dressa devant ses yeux.
« C'est cela le défi, compagne. Accepter ces expériences, les mettre à profit au lieu d'en rester prisonnier. »
Connaître le tracé de Terrilville et connaître sa géographie, ce sont deux choses différentes, songeait Ronica amèrement. Dans un sanglot sans larmes, elle retint son souffle en apercevant le profond ravin qui lui barrait la route. Elle avait décidé de conduire Rack par ce chemin à travers bois derrière la maison de Davad. Elle savait qu'en coupant directement par le bois jusqu'à la mer, elles atteindraient le quartier pauvre de Terrilville où s'étaient installées les familles de trois navires.
Elle l'avait souvent vu sur la carte dans le cabinet de travail d'Ephron. Mais sur la carte ne figurait pas ce ravin qui serpentait à travers les arbres, ni le mince filet d'eau bourbeuse tout au fond. Elle s'arrêta, le considéra.
« Peut-être aurions-nous dû passer par la route, »
déclara-t-elle piteusement à Rack. Elle resserra son châle trempé autour de ses épaules.
« Par la route, ils auraient eu vite fait de nous rattraper. Non, vous avez eu raison de partir par là. »
La servante prit la main de Ronika, la posa sur son bras et la tapota d'un geste rassurant.
« Suivons le cours d'eau. Soit nous trouverons un gué emprunté par les animaux, soit il nous mènera à la plage. À partir de là, nous pouvons toujours longer le rivage jusqu'à l'endroit où les bateaux de pêche sont au plein. »
Rack ouvrit la marche suivie d'une Ronika reconnaissante. Des buissons dénudés accrochaient leurs jupes et leurs châles, mais la servante avançait vaillamment à travers les fougères et les saliquaires ruisselantes. Des cèdres imposants se dressaient très haut, retenant la pluie, mais de temps à autre, une branche basse se déchargeait sur elle de son poids d'eau. Elle n'avait rien emporté. Elle n'avait pas eu le temps de faire leur paquet. Si les gens de trois navires les chassaient, elle dormirait dehors cette nuit, à découvert.
« Tu n'es pas tenue d'être mêlée à tout ça, Rack. »
Ronika se sentait obligée de le lui faire remarquer.
« Si tu me laisses, tu pourrais te réfugier parmi les tatoués. Rhodes n'a aucune raison de te courir après. Tu y serais en sécurité. Allons donc. D'ailleurs, vous ne savez pas comment aller chez Pelé Kelter. Je suis sûr qu'il faut passer d'abord chez lui. S'il nous chasse, on n'aura plus qu'à se réfugier tous les deux chez les tatoués. »
En milieu de matinée, la pluie diminua. Elles arrivèrent à un endroit où un sentier descendait la pente escarpée du ravin. Parmi des traces de sabots, Ronika releva l'empreinte d'un pied nu dans la vase molle. C'étaient les voix aussi de nombreux cerfs. Elle peina à suivre Rack, se retenant aux troncs d'arbres et aux buissons pour éviter de tomber. Quand elles eurent atteint le fond, ses jambes écorchées étaient crottées jusqu'aux genoux. Peu importait. Il n'y avait pas de pont pour franchir la large nappe d'eau verte au fond du ravin. Les deux femmes traversèrent en pataugeant, sans un mot. L'autre côté était moins élevé et moins abrupt. En se cramponnant l'une à l'autre, elles gravirent la pente en trébuchant et émergèrent dans des bois plus clairsemés. Elles étaient sur un sentier à présent, qui s'élargit bientôt en un chemin battu. Ronika entrevit des abris de fortune sous les arbres. Elle sentit à un moment une odeur de feu de bois, un fumet de bouillie qui cuisait et son estomac se mit à gronder.
« Qui vit ici ? »
demanda-t-elle à la servante qui la pressait d'avancer.
« Des gens qui ne peuvent pas vivre autre part ? »
répondit Rack évasivement. Elle ajouta bientôt, comme si elle regrettait sa défiance,
« Des esclaves qui se sont enfuis de chez leur maître, nouveaux marchands, pour la plupart. Ils ont été obligés de rester cachés. Il leur était impossible de chercher du travail ni de quitter la ville. Les nouveaux marchands ont posté des gardes sur les quais qui arrêtent les esclaves sans papier. Ce n'est pas le seul campement clandestin dans les bois des environs. Il y en a d'autres et ils se sont étendus depuis la nuit du feu. Il y a toute une ville cachée là, Ronika. Ils vivent en marge, des miettes de notre commerce, mais ce sont des êtres humains malgré tout. Ils braconnent, cultivent des lopins de terre ou cueillent des noix sauvages et des fruits dans la forêt. Ils font du troc, surtout avec les gens de trois navires, pour du poisson, du tissu, des denrées de première nécessité. »
Elles passèrent devant deux cabanes blotties sous l'ombre d'un bouquet de cèdres.
« J'ignorais qu'ils étaient si nombreux, »
dit Ronika d'une voix tremblante. Rack eut un reniflement amusé.
« Tout nouveau marchand arrivé dans votre ville a amené au moins 10 esclaves avec lui. Nourrice, cuisinière, valet pour la maison et journalier pour les champs et les vergers. Ils ne viennent pas en ville, ne se promènent pas parmi vous, mais ils sont là. »
Un pâle sourire plissa son tatouage.
« Nous sommes nombreux, ce qui fait de nous une force avec laquelle il va falloir compter. Pour le meilleur ou pour le pire, Ronika, nous sommes ici et nous y resterons. Terrilville doit le reconnaître. Nous ne pouvons pas continuer à vivre en marge comme des réprouvés. Il faut que nous soyons reconnus et acceptés. »
Ronika garda le silence. Les paroles de l'esclave affranchi étaient presque menaçantes.
Sur le chemin, elle entrevit un garçon et une fillette qui disparurent bientôt comme des lapins affolés. Ronika commençait à se demander si la servante ne l'avait pas conduite délibérément dans cette direction. Assurément, elle semblait à l'aise, les lieux paraissaient lui être familiers. Elles gravirent une nouvelle colline, laissant derrière elles les huttes éparses. Une végétation de feuillage persistant se resserrait autour d'elles qui assombrissait encore le ciel couvert. Le sentier se rétrécit. Il semblait moins fréquenté, mais maintenant que Ronika allait chercher des yeux, elle en aperçut plusieurs autres qui bifurquaient. Avant que les deux femmes aient atteint les maisons de trois navires, le long de la plage schisteuse, le chemin n'était guère plus qu'une voie d'animal. Un vent frais soufflant du large les poussait. Ronika grimaça en songeant à son apparence sale et dépenaillée. Dans ce quartier de Terrilleville, les maisons épousaient le contour de la plage, d'où les familles de trois navires pouvaient guetter le retour de leurs barques de pêche. Sur les talons de rack qui l'entraînaient en hâte dans la rue, Ronika regardait autour d'elle avec une curiosité circonspecte. Elle n'était jamais venue par là. Exposée aux tempêtes de la baie, la rue venteuse était trouée de flaques. Des enfants jouaient sur les porches des baraques en planches. Des odeurs de bois flotté et de boissons fumées flottaient dans le vent vif. Des filets tendus entre les maisons attendaient leur amendage. Les émeutes et la désolation qui leur avaient succédé avaient peu affecté ce quartier de la ville. Une femme, bien protégée du gros temps par son capuchon, les dépassa d'un pas pressé en poussant un baril de poisson plat. Elle les salua d'un hochement de tête.
« Voilà, c'est la maison de Pelé !»
annonça Rack tout à coup. La construction branlante à un niveau ne différait guère de ses voisines. On l'avait récemment badigeonnée à la chaux, unique signe de prospérité que Ronika put remarquer. Elles avancèrent sous le porche couvert qui courait le long de la maison, et Rack frappa à la porte d'une main ferme. Ronika repoussait en arrière ses cheveux trempés quand la porte s'ouvrit. Une grande femme se tenait dans l'encadrement, fortement charpentée et robuste, à l'instar de nombreux colons de trois navires. Sa figure était criblée de taches de rousseur, et ses cheveux blonds étaient roussis par les intempéries. Elle les dévisagea un instant d'un air soupçonneux, puis un sourire adoucit sa physionomie.
« Je vous remets, » dit-elle à Rack. « C'est vous qui avez demandé un bout de poisson à pas. »
Rack hocha la tête sans se vexer d'être ainsi caractérisé.
« Je suis revenu le voir deux fois depuis. Les deux fois vous étiez à la pêche au Carlet. Vous êtes Eck, c'est ça ?»
Eck n'hésita pas davantage.
« Ah, entrez alors. Vous avez l'air trempé comme des soupes. Non, non, ne vous en faites pas pour les chaussures. Quand on aura traîné assez de boue dans la maison, on finira bien par nettoyer. »
À en juger par l'état du sol près de la porte, cela ne manquerait pas d'arriver bientôt. C'était un plancher de bois nu et usé. À l'intérieur, les plafonds étaient bas et les petites fenêtres ne donnaient guère de lumière. Un chat dormait étendu près d'un chien à long poil qui ouvrit un œil pour les saluer quand elles l'entourèrent puis se rendormit. À côté du chien assoupi, il y avait une table et des chaises solides.
« Asseyez-vous donc, » dit la femme, « et ôtez vos habits mouillés. Pas n'est pas là, mais il doit rentrer bientôt.
Du thé ?»«
Je vous en serai tellement reconnaissante. »
remercia Ronika. Eck puisa de l'eau dans un baquet pour en remplir une bouilloire. En la posant sur le foyer, elle les regarda par-dessus son épaule.
« Vous avez l'air rompu. Il reste de la bouillie de ce matin, un peu colpate, mais ça nourrit quand même. Je la réchauffe ?»« S'il vous plaît, »
répondit Rack, car Ronika ne trouvait plus ses mots. Elle avait beau se rendre compte que c'était son aspect tout déguenillé qui lui valait une telle charité, elle était pourtant émue aux larmes devant l'hospitalité simple et franche de cette jeune fille à l'égard de deux étrangères. Qu'elle en soit arrivée à mendier à une porte de trois navires, c'était là pour elle une leçon d'humilité. Qu'aurait pensé Ephron de sa femme? La bouillie était en effet épaisse et collante, mais Ronika dévora sa portion avec une tasse de thé rougeâtre savoureusement épicée à la cardamone selon l'usage de trois navires. Eck paraissait sentir qu'elles étaient toutes deux affamées et épuisées. Elle les laissa manger et fit la conversation, parla du temps capricieux, des filets à ramander, de la quantité de sel qu'on devait acheter quelque part pour saler suffisamment de poissons de garde en prévision de la mauvaise saison.
Ronika et Rak approuvaient de la tête tout en mangeant. Quand elles eurent fini la bouillie, Ek débarrassa bruyamment leur bol. Elle les resservit d'un thé brûlant et parfumé. Alors seulement elle s'assit devant sa tasse.
« Alors, c'est vous qui avez discuté avec Pa, c'est ça? Vous êtes venu lui parler de la situation à Terrilville, hein ?»
Ronika apprécia sa manière directe d'aborder la question et lui répondit de même.
« Pas exactement. J'ai parlé avec votre père à deux reprises. Je lui ai fait part de la nécessité pour tous les habitants de Terrilville de s'unir et de faire la paix. Les choses ne peuvent pas continuer ainsi. Sans quoi les Chalcédiens n'auront plus qu'à s'installer à l'entrée du port et attendre qu'on s'écharpe. Dans l'état actuel des choses, quand nos navires de patrouille rentrent, ils ont du mal à trouver des denrées fraîches. Sans compter qu'il est bien dur pour les pères et les frères de quitter leur foyer pour chasser les Chalcédiens s'ils doivent s'inquiéter pour la sécurité de leur famille. »
Ek hochait la tête et une ride se creusa sur son front. Rak intervint doucement.
Mais ce n'est pas pour cela que nous sommes ici. Ronika et moi cherchons asile chez les gens de trois navires, si possible. Nos vies sont menacées.
Trop théâtral, songea tristement Ronika en voyant la jeune fille plisser les yeux. Un instant après, on entendit un frottement de bottes sur le porche et la porte s'ouvrit sur Pelé Kelter. Il était tel que Rak l'avait décrit. Une vraie barrique, avec plus de poils roux à la barbe et sur les bras que sur le crâne. Il s'arrêta, consterné, puis referma la porte derrière lui et perplexe resta à se gratter la barbe. Il jeta un coup d'œil à sa fille, puis aux deux femmes attablées avec elle. Il prit une inspiration, comme subitement rappelé aux bonnes manières. Mais son salut fut aussi abrupt que celui de sa fille.
« Qu'est-ce qui amène la marchande Vestrit à ma porte et à ma table ?»
Ronika se leva précipitamment.
« La dure nécessité, Pelé Kelter. Mes concitoyens se sont retournés contre moi. On m'accuse de trahir et de comploter, alors qu'en réalité je n'ai fait ni l'un ni l'autre. »
« Et vous êtes venu chercher asile chez moi et les miens ?»
rétorqua Kelter pesamment. Ronika acquiesça en baissant la tête. Ils savaient tous deux qu'elle attirait les ennuis et qu'ils pouvaient retomber très lourdement sur Pelé et sa fille. Elle n'avait pas besoin de le préciser.
« Ce sont des problèmes de marchands, et c'est injuste de souhaiter que vous les assumiez. Je ne vous demande pas asile, mais si vous pouviez seulement envoyer un mot à un marchand en qui j'ai confiance. » Si j'écris un message et que vous pouviez trouver quelqu'un pour le porter à Grag Tenira, des marchands de Terrilville, et que vous me permettiez d'attendre ici sa réponse, c'est tout ce que je demande. »
Elle ajouta devant leur silence.
« Et je sais que c'est un grand service que je sollicite de quelqu'un que je n'ai vu que deux fois. »
« Mais chaque fois vous avez parlé honnêtement. » Des choses qui me tiennent à cœur, de la paix à Terrilville, paix dans laquelle les gens de trois navires pourraient avoir leur mot à dire. Et le nom de Tenira ne m'est pas inconnu. Je leur ai souvent vendu du poisson salé pour les vivres du navire. On élève des hommes droits dans cette maison, sûr. »
Pelé plissa les lèvres et fit un bruit de succion en réfléchissant.
« D'accord, » dit-il d'un ton décidé.
« Je n'ai... « aucun moyen de vous rétribuer, » prévint Ronika.
« Je ne me rappelle pas avoir demandé de rétribution. »
La voix était bourrue mais sans dureté. Il ajouta désinvolte.
« Je ne vois aucune rétribution qui vaudrait de mettre ma fille en danger. Ma récompense sera la satisfaction du devoir accompli, quel que soit le risque encouru. »
« Je veux bien, pas. »
intervint Ek à mi-voix.
« Laisse la dame écrire son billet. Je le porterai moi-même à Tenira. »
Un étrange sourire crispa les traits épais de Pelé.
« Et en plus, je pensais bien que tu voudrais y aller, »
déclara-t-il. Ronika remarqua qu'elle était devenue « la dame » pour Ek. Bizarrement, elle s'en sentit diminuée.
Je n'ai même pas un bout de papier, ni une goutte d'encre à moi, dit-elle à mi-voix.
Nous avons ça.
Ce n'est pas parce qu'on est de trois navires qu'on est illettré,
commenta Eck d'un ton où perçait une note d'aigreur. Elle se leva vivement et apporta à Ronica une feuille de papier, une plume et de l'encre. Ronica trempa la plume et suspendit son lèvre. Autant pour elle-même que pour Rack, elle déclara
« Il faut rédiger ceci avec soin. Je dois non seulement lui demander son aide, mais aussi lui apprendre des nouvelles qui concernent Terrilville, nouvelles qui doivent se répandre au plus vite. »
« Pourtant, je remarque que vous n'avez pas proposé de nous en faire part, »
releva Eck.
« Vous avez raison, »
approuva Ronica humblement. Elle posa sa plume et leva les yeux sur Eck.
« Je ne sais pas au juste ce que signifient ces nouvelles, mais je crains qu'elles nous affectent tous. Le gouverneur a disparu. Il a été enlevé et emmené en amont du fleuve du désert des pluies pour sa sécurité. » Tout le monde sait que seule une vive nef peut remonter ce fleuve. Là-bas, on pensait qu'il serait à l'abri d'une trahison des nouveaux marchands ou des Chalcédiens.
En effet, il n'y a qu'un marchand de Terrilville qui pourrait le descendre là-bas.
Eck,
la rabroua son père, puis s'adressant à Ronica,
continuez.
Il y eut un tremblement de terre. Je sais seulement qu'il y a eu de gros dégâts et que le gouverneur a disparu quelque temps. Maintenant, il paraît qu'il a été vu dans un canot, en aval du fleuve, avec ma petite fille, Malta.
Elle eut du mal à prononcer les mots suivants.
Certains craignent qu'elle l'ait retournée contre les premiers marchands, qu'elle ait trahi et qu'elle l'ait convaincue de s'évader de sa cachette pour se mettre en sûreté.
Et quelle est la vérité?
Demanda Pelé. Ronica secoua la tête.
« Je n'en sais rien. Les mots que j'ai surpris ne m'étaient pas destinés. Je n'ai pas pu poser de questions. On a parlé d'une menace d'attaque de la flotte jamélienne, mais on en a dit trop peu pour que je sache si la menace est réelle ou supposée. Quant à ma petite fille... »
Sa gorge se serra. La peur qu'elle avait repoussée la submergea brusquement. Elle respira avec peine et reprit avec un calme qu'elle ne ressentait pas.
« Il n'est pas sûr que le gouverneur et ceux qui l'accompagnaient soient encore vivants. Il se peut que le fleuve ait détruit leur bateau ou qu'ils aient été capturés. On ignore où ils se trouvent. Et quelles que soient les circonstances de cette disparition, j'ai bien peur qu'elle ne nous précipite dans la guerre, avec Jamélia et peut-être avec Chalcède, ou simplement une guerre civile ici. » Premier marchand contre nouveau.
Et trois navires pris entre les deux comme d'habitude,
commenta Eck amèrement.
Eh bien, c'est comme ça. Écrivez votre lettre, dame Ronica, et je la porterai. Ce sont des nouvelles qu'il vaut mieux répandre que garder secrètes, il me semble.
Vous avez vite fait de saisir l'essentiel,
approuva Ronica. Elle prit sa plume et la trempa de nouveau dans l'encre. Mais en posant la plume sur le papier, elle ne songeait pas seulement aux mots qui attireraient Grag ici au plus vite, mais aussi aux difficultés d'instaurer une paix durable à Terrilville. La pointe de la plume courut vivement en grinçant sur le papier grossier.